Avant de partir sur ce sujet, je voudrais brièvement vous présenter l'organisation professionnelle dans laquelle je travaille, donc l'UNIFA, l'Union nationale des industries de la fertilisation. Donc l'UNIFA regroupe 50 adhérents qui produisent des fertilisants, en particulier des engrais minéraux, des engrais organominéraux, des amendements minéraux basiques et des produits spéciaux. Les producteurs sont sur le territoire de l'Union européenne. Ces adhérents représentent 94% de la production française de fertilisants et 78% des livraisons au niveau français sur un marché annuel de 11,1 millions de tonnes. Cela représente 2,95 milliards d'euros en chiffre d'affaires et environ 4 000 emplois directs. L'UNIFA est membre d'organisations professionnelles européennes comme Fertilizer Europe et International, l'IFA. Nous sommes aussi membres d'une association nationale professionnelle pour les engrais et amendements, l'AMPEA, qui héberge le bureau de normalisation fertilisation, dont je suis la directrice. Ce bureau de normalisation donc, a été agréé en 2012 par le SQALPI, pour travailler en délégation d'AFNOR sur tous les travaux de normalisation des matières fertilisantes, des supports de culture, des paillages, des composants de ces produits, des additifs et également sur les méthodes d'essai qui permettent de les caractériser. L'UNIFA a également un mandat des pouvoirs publics pour établir les statistiques officielles. Comme toute organisation professionnelle, elle représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics dans tous les domaines qui sont liés à la production et à l'utilisation des fertilisants destinés à l'agriculture. Donc, on vous a cité sur cette DIA les différents domaines dans lesquels on intervient, donc techniques, économiques, agronomiques, environnementaux, etc. Nous sommes en relation donc avec différents ministères qui sont également cités, dont les principaux agriculture, industrie, écologie, finance. Et bien sûr, nous travaillons en concertation permanente avec les organismes de la profession agricole. Je vais donc aborder maintenant le thème de mon sujet, qui est l'harmonisation au niveau européen de la mise sur marché des matières fertilisantes et des supports de culture. Je vous propose un plan en quatre parties. Tout d'abord, faire un rappel de la mise sur marché des matières fertilisantes et supports de culture en Europe et en France. Ensuite, expliquer pourquoi on a parlé d'harmonisation européenne, quels sont les objectifs de la Commission européenne et essayer d'évoquer le futur règlement, sachant qu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun élément concret sur ce projet, puisque pas de trace écrite. Alors, la mise sur le marché des matières fertilisantes en Europe peut se faire de différentes façons. Nous l'avons vu, ça a été évoqué d'ailleurs hier, je pense, au niveau de l'ANSES. Il y a le règlement 2003-2003 qui couvre l'ensemble des engrais CE qui sont listés dans l'annexe 1 du règlement, qui sont en fait des engrais minéraux et assimilés. Alors pourquoi assimilés? Parce qu'effectivement, l'urée et ses produits d'hydratation, de condensation, la cyanamide calcique, les engrais avec oligo-éléments chélatés et complexés sont considérés et sont assimilés à des engrais minéraux ou inorganiques au niveau européen. Donc, ce règlement qui date de l'année 2003 s'applique directement dans tous les États membres. Il n'y a pas besoin de transposition comme avec les directives de transposition nationale. Une autre façon aussi de mettre sur le marché, c'est de respecter les législations nationales de chaque État membre, puisque les États membres ont conservé leur législation nationale qui couvre les autres matières fertilisantes et les supports de culture, qui peuvent également couvrir certains engrais minéraux, puisque tous ne sont pas dans le règlement 2003-2003. Enfin, troisième façon, la reconnaissance mutuelle. Vous savez que dans le traité de l'Union européenne, un des grands principes est la libre circulation des produits au niveau de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et selon ce principe, tous les produits qui ne sont pas harmonisés au niveau européen et qui sont mis je vais dire régulièrement, c'est-à-dire conformément à la législation nationale dans un État membre, doivent pouvoir être mis sur le marché dans un autre État membre. Alors concrètement, en France, comment cela se passe-t-il? La mise sur le marché est régie par l'article L255-2 du Code rural et de la pêche maritime, qui dit que toute matière fertilisante et support de culture doit être soumise à une autorisation de marché. Donc, dans le cas des matières fertilisantes, on parle d'homologation, d'autorisation provisoire de vente. Il y a deux exceptions à cette règle. Si la matière fertilisante ou le support de culture, donc la matière fertilisante dans ce cas-là, respecte le règlement ou est dans le règlement 2003-2003, donc le règlement harmonisé engrais CE, ou s'il est conforme à une dénomination d'une norme française qui est rendue d'application obligatoire par arrêté interministériel et publié au JO. Donc cette norme, beaucoup de progrès maintenant, puisqu'avant toutes les normes, il fallait les acheter. Donc les normes qui sont rendues d'application obligatoire, vous pouvez les consulter sur le site de l'AFNOR. Je vous ai indiqué d'ailleurs le lien pour aller les consulter. Alors ces deux exceptions sont effectivement soumises à une réserve qui est l'innocuité de la matière fertilisante ou du support de culture vis-à-vis de l'homme, des animaux et de l'environnement dans ces conditions d'emploi normales ou préconisées. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui régit la réglementation française et d'ailleurs européenne. Alors, au niveau du règlement 2003-2003, c'est un règlement qui a connu de plusieurs amendements que l'on appelle adaptation au progrès technique pour justement permettre d'intégrer dans ce règlement les avancées des industriels, les innovations des industriels. Je vous ai listé les principales avancées, essentiellement au niveau de l'introduction d'une liste d'agents inhibiteurs de nitrification et d'uréase. Les nouveaux agents inhibiteurs, on espère que le prochain, ce sera le DMPP. Au niveau des agents de inhibiteurs d'uréase, il y en a deux aujourd'hui, le NPPT et le NPT. Au niveau des nouveaux agents chélatants, il y en a toute une liste. Le dernier qui a été introduit est le HBED et il y en a un autre qui pourrait arriver qui est le DDS qui est en train d'être étudié. Et puis il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, l'introduction du premier agent complexant qui est l'acide lignosulfonique. Une des avancées aussi du règlement, c'est la modification de toute la partie E de l'annexe 1 sur les engrais déclarant des oligoéléments. Cette partie a été complètement refaite de façon à pouvoir intégrer de nouvelles dénominations comme les suspensions de certains oligoéléments, introduire également les complexes d'oligoéléments suite à l'introduction de l'agent complexant et également de revoir un petit peu l'ensemble des mélanges entre oligoéléments. Mais je dirais la grande nouveauté de ce règlement, c'est son évolution avec l'introduction d'une nouvelle catégorie au niveau des engrais CE, qui sont les amendements minéraux basiques. Effectivement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion au niveau français, il a été demandé à ce qu'à côté de engrais CE soit mis amendement minéraux basiques. Je suis désolée, il y a une petite erreur là sur la dia, vous ne m'en voudrez pas, c'est tellement long que j'ai voulu raccourcir. Dans ces amendements minéraux basiques, donc 5 catégories ont été introduites, les principales que vous connaissez au niveau français, donc les amendements minéraux basiques naturels, donc tout ce qui concerne les carbonates, la dolomie, les amendements minéraux basiques d'origine naturelle ayant des hydroxydes ou des oxydes, donc comme les chaux. Également un amendement minéral basique issu de procédés industriels, les écumes de sucrerie, et puis ensuite des amendements mixtes, mélange entre plusieurs catégories, sous-catégories des amendements minéraux basiques, et puis les mélanges entre les amendements minéraux basiques et les engrais, excepté les oligoéléments. Donc ça, c'est vraiment une très grande avancée et nous en sommes très, très fiers. Le règlement qui a entériné cela est paru donc le 17 mai 2013, mais l'entrée en application, donc à partir du moment où vous pourrez mettre sur le marché des amendements minéraux basiques sous règlement 2003-2003, ça sera le 7 juin 2014. Je vous ai donc parlé de la mise sur le marché des matières fertilisantes. Je vous ai indiqué différentes façons de le faire. Au niveau français, j'ai effectivement, au niveau européen, je vous ai dit que le règlement 2003-2003 ne concernait qu'une partie des matières fertilisantes, même si effectivement il est en train d'évoluer. Néanmoins, il ne concerne pas toutes les matières fertilisantes. Il y a beaucoup d'évolutions sur l'emploi maintenant de matières premières à base de produits résiduaires ou de sous-produits d'origine animale ou organique, et ça ne rentre pas dans le règlement. Donc, c'est une des faiblesses. On parle d'innocuité dans le règlement 2003-2003, mais on ne donne aucune limite en contaminant, donc c'est également un petit peu gênant pour les industriels pour savoir ce qu'ils peuvent réellement mettre sur le marché. Il évolue, ce règlement. Il dispose d'une procédure d'adaptation au progrès technique, mais elle est peu détaillée. Surtout, elle est longue, puisque pour introduire un nouveau produit, cela peut prendre entre 2 et 4 ans. Donc, ce n'est pas très, très pratique quand on veut mettre un nouveau produit sur le marché. Il faut attendre relativement longtemps. Donc, cette procédure, en fait, elle repose sur un dossier à présenter au niveau de la Commission européenne, via un État membre. Donc un industriel présente un dossier qui comprend des éléments d'innocuité, qui comprend des éléments d'efficacité agronomique, mais on ne sait pas exactement jusqu'où il faut aller. Donc ça, ce sont les faiblesses du règlement 2003-2003. Au niveau de la législation nationale, on a vu que les règles nationales différaient suivant les États membres. Il n'y a pas les mêmes catégories de matières fertilisantes, il n'y a pas les mêmes critères de qualité dans les différents États membres. Donc c'est difficile pour les industriels de connaître les réglementations nationales, et c'est difficile aussi pour les organismes de contrôle de pouvoir contrôler. Il faut connaître 25 réglementations nationales, c'est pas évident. Donc, la reconnaissance mutuelle, maintenant la troisième façon, là aussi il y a des difficultés d'application. Elle est appliquée de façon très différente suivant les États membres. Elle peut être basée sur un simple enregistrement dans certains États membres. Ça peut aller jusqu'à une évaluation plus ou moins poussée. En France, les produits qui veulent avoir une reconnaissance mutuelle, donc le ministère de l'Agriculture demande qu'un dossier soit déposé, un dossier d'homologation soit déposé au niveau de l'ANSES, et que l'ANSES donne un avis, puis une décision par le ministère de l'Agriculture. Néanmoins, la difficulté, il n'y a pas de procédure spécifique pour la reconnaissance mutuelle, et dans le cas de produits qui sont mis via des règles techniques, les industriels ne possèdent pas forcément un dossier complet d'homologation, ce n'est pas possible. Donc ça ne fonctionne pas très très bien. Nous espérons que ça va s'arranger assez rapidement. En tout cas, l'UNIFA essaye d'œuvrer dans ce sens auprès des pouvoirs publics. Donc cette différenciation d'application de reconnaissance mutuelle entre les États membres provoque des distorsions de concurrence au niveau des industriels, et peut même... On peut même aller plus loin, on peut dire que parfois il y a une véritable barrière économique qui est mise en place. Donc tout ceci a mené en fait à les professionnels et les ministères à évoquer le terme d'harmonisation européenne. La première pierre à l'édifice, je pense que ça a été le séminaire international qui a eu lieu à Paris en septembre 2009. Organisé par le ministère de l'Agriculture et des Finances en partenariat avec l'AMPEA et Ritmo Agro-Environnement. Il y a eu 20 États membres qui étaient présents, plus de 250 personnes, des institutionnels, des professionnels, des représentants de la Commission européenne. La conclusion de ce séminaire a été qu'effectivement, on a besoin d'une réglementation au niveau des matières fertilisantes pour qu'il y ait des échanges loyaux entre États membres. On a besoin d'avoir aussi une information au niveau des utilisateurs. Et il faut également qu'il y ait un respect de, la part, de l'environnement et de la santé humaine, mais dans des justes proportions, de façon équilibrée. Je pense que la Commission européenne a entendu le message, puisque début 2010, ils ont commencé les travaux d'harmonisation par un rapport sur une post-évaluation du règlement 2003-2003 pour en montrer l'intérêt et ses faiblesses, faiblesses que je vous évoquais auparavant. Ensuite, en 2011, ils ont lancé une autre étude sur les options qui permettaient d'harmoniser totalement la mise sur le marché des matières fertilisantes. Sept options ont été dégagées. Des options allant du retrait complet de la réglementation sur les matières fertilisantes en utilisant les existantes, comme par exemple REACH ou CLP ou celles sur les sous-produits animaux, en passant également par le maintien du règlement 2003-2003 tel qu'il est aujourd'hui, ou le règlement 2003-2003 avec des certifications volontaires au niveau des industriels, ou remplacer le règlement 2003-2003 par des listes d'ingrédients ou des listes d'additifs. Il a été également évoqué le règlement Nouvelle Approche, qui est un règlement dans lequel il y a des exigences principales, et le reste, les moyens pour atteindre ces exigences principales, donc, sont faits via des normes harmonisées et en général volontaires, de pratiques volontaires. Et puis, également, il a été évoqué le fait de mélanger plusieurs options suivant les catégories de matières fertilisantes. À la suite de cela, la Commission européenne a organisé des groupes de travail avec les États membres et les organisations professionnelles européennes de façon à dégager des aspects techniques pour mettre en place la future réglementation. Ces groupes de travail, je vous l'ai dit, il y en avait quatre. Un travaillait sur la partie catégorie, périmètre en fait du futur règlement et la définition de ces catégories. Le deuxième travaillait sur les critères de qualité à mettre au niveau des catégories et l'efficacité agronomique. Le troisième sur l'innocuité et les contaminants et le quatrième sur l'étiquetage et le contrôle des produits. Donc, l'objectif de la Commission, elle est d'harmoniser les règles de mise sur le marché et le contrôle. Elle souhaite qu'il y ait une disparition complète des règles nationales et qu'il n'y ait plus de reconnaissance mutuelle, puisque c'est vraiment quelque chose qui est bloquant. Elle, bien sûr, veut améliorer la sécurité des produits par rapport à l'environnement et la santé publique. Elle souhaite simplifier les règles d'accès au marché et les règles de contrôle. Et elle souhaite informer correctement les utilisateurs. Une dernière chose que je n'ai pas notée, mais qui a été également définie, c'est qu'elle souhaite également avoir moins de travail dans la mise à jour régulière du règlement. Alors, je vais vous présenter maintenant les caractéristiques possibles du futur règlement, sachant que ce que je vais vous dire donc, est basé sur la synthèse des travaux de ces quatre groupes de travail et qu'il ne préjuge aucunement de ce que la Commission européenne va conserver et qu'à ce jour, comme on n'a aucun projet écrit, on ne sait pas vraiment ce qui va se faire. Donc, la première chose, c'est le périmètre qui a été défini. Ce périmètre définit cinq catégories de produits. Les engrais, inorganiques ou minéraux, organiques, organominéraux. Pour les organominéraux, ce n'est pas encore tout à fait sûr, puisque la Commission européenne souhaitait dire que c'était simplement des mélanges entre des engrais organiques ou des amendements organiques et des engrais minéraux. Deuxième catégorie, amendements minéraux basiques, les amendements des sols, avec les amendements organiques, dont les composts et les digestats de méthanisation. D'autres types d'amendements, là qui seraient plutôt inorganiques, comme ont été évoqués la perlite, le sable, les argiles, les polymères, les supports de culture et les biostimulants des plantes. Donc, dans les biostimulants des plantes, on vous en a parlé, l'ANSES vous en a parlé hier, tout ce qui concerne et les extraits végétaux et les acides aminés et également les micro-organismes. J'ai cité tout en bas une sixième catégorie qui, pour moi, n'est pas véritablement une catégorie, mais il est certainement possible qu'il y ait une liste d'additifs agronomiques dans le sens non français du terme, mais les additifs agronomiques seraient les agents chélatants complexant les inhibiteurs d'uréase, les inhibiteurs de nitrification et les agents enrobants pour les engrais à libération progressive et ou contrôlée. Donc là, on est à peu près sûr de ces cinq catégories de produits. Ensuite, pour ces différentes catégories de produits, le but était aussi de les caractériser, donc de définir des critères de qualité. Donc il y aura des critères de qualité, on espère, définissant chaque catégorie et sous-catégorie. Donc pour bien déterminer ce qu'est un engrais minéral, un engrais organique, etc. Sachant qu'il y aura moins de contraintes sur certainement moins de contraintes sur l'efficacité agronomique, puisque la Commission européenne estime que le principal, c'est plutôt l'innocuité avant l'efficacité agronomique, que les agriculteurs pourront faire leur choix quant à l'efficacité. Et ça se ressent sur les critères de qualité qui ont été définis. Donc je vais vous en donner simplement pour exemple. Pour les éléments, pour les engrais, il a été proposé des teneurs minimales en azote total de 2% pour les engrais minéraux et de 1,5% pour les engrais organiques, de 0,5% pour le phosphore, pour les phosphates, le phosphate total, et puis de 0,75% pour le potassium. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très bas. Pour les amendements organiques, ils pourraient être définis pour une teneur minimale en matière organique de 15%. Donc on voit que l'efficacité agronomique est un petit peu laissée de côté. L'introduction du cadre sur l'innocuité, ça c'est sûr, il sera commun à toutes les catégories, ce sera une exigence commune. Par contre, elle pourra avoir des spécificités pour chaque catégorie. Donc, des spécificités pour chaque catégorie, pour éventuellement des matières premières différentes. On pourrait être plus exigeant pour des matières premières dites à risque, issues des déchets résiduaires. Ça pourrait être aussi fonction des flux, hein, des apports au sol. Donc, plus le flux est important, plus les seuils pourraient être abaissés. On a parlé donc de six éléments de traces métalliques, on a parlé de micro-organismes pour les produits d'origine animale et végétale et de composés traces organiques également. Un des points importants sera, qui a été là voulu par l'ensemble des États membres et la Commission européenne, c'est de pouvoir caractériser les produits qui sont mis sur le marché en s'appuyant sur des méthodes d'analyse normalisées et reconnues qui puissent être appliquées partout dans les États membres. Donc là, je pense que la commission ME du BNFERTI aura son rôle à jouer. Il faut qu'on soit précurseur pour remonter les méthodes d'analyse. L'étiquetage, ça c'est quelque chose d'important pour informer l'utilisateur. Donc dans l'étiquetage, il n'y aura peut-être plus de références à des dénominations, simplement des références à la catégorie. La déclaration des éléments nutritifs devrait être simplifiée. On parle d'expression en oxyde et en élémentaire et peut-être que en élémentaire dans un temps futur. On déclarera les éléments nutritifs majeurs. On pourrait déclarer ces éléments total, donc NPK en total. Les solubilités seraient aussi simplifiées, en particulier pour le phosphore, puisqu'on ne conserverait que quelques types de solubilité, dont la solubilité dans le citrate d'ammonium neutre, la solubilité O, la solubilité dans les acides minéraux et l'acide formique pour le phosphate total. Un accent est mis aussi sur la traçabilité des matières fertilisantes, donc il serait demandé qu'un numéro de lot soit présent systématiquement sur les étiquettes. Ensuite, suivant les options, il pourrait y avoir des listes de matières premières positives ou négatives, on ne sait pas. Une liste positive d'additifs agronomiques, ça, on pense qu'effectivement, il y aura quelque chose dans ce sens. Et puis, un dernier élément qui est important, c'est pour les biostimulants. Il est évoqué le fait que les biostimulants pourraient être mis via un enregistrement au niveau de la Commission européenne, selon une méthodologie qui reste à définir, mais il a été évoqué l'exemple de REACH, hein, où des dossiers sont à déposer et une fois que l'enregistrement est fait, le produit peut être mis sur le marché. Alors, en conclusion, où on en est aujourd'hui, donc à l'issue de ces travaux, de ces quatre groupes de travail, la Commission européenne est en train de finaliser l'évaluation des options. Donc il y a une étude d'impact économique, environnementale et sur la santé qui est faite pour chaque option. Et en fonction de cette évaluation, il y aura le choix de la meilleure option qui sera gardée. Les prévisions, aujourd'hui on n'a pas de projet écrit. On nous en avait promis un pour la fin de l'année 2013. On y arrive. Pour l'instant, on n'a encore rien. Alors peut-être est-ce que ça sera début 2014. On avait parlé d'une soumission du projet au Conseil et au Parlement donc en début 2014, mais apparemment, ça sera plutôt deuxième semestre, voire fin 2014, puisqu'il semble que le projet ne sera pas soumis avant les élections au Parlement, donc la nouvelle composition du Parlement, ce qui va retarder son adoption et sa publication au JO. On peut estimer que ça sera plutôt fin 2016, avec une en train d'application 2 ans après, donc 2018. Voilà, je vous remercie.
Malheureusement, on va avoir juste le temps pour une question. Il y en a une devant. Si possible, une question courte, réponse courte aussi.
Oui, Jean-Pierre Cohen d'Arvalis. J'ai pas vu dans vos explications comment étaient considérés dans la réglementation les engrais enrobés, que ce soit avec des enrobages organiques ou des enrobages synthétiques. Comment est-ce qu'on les considère dans la réglementation
actuelle, la réglementation aujourd'hui.
Voilà, et puis à l'avenir aussi, tant qu'on y est.
Aujourd'hui, les engrais enrobés peuvent entrer dans le règlement 2003-2003. Et dans le futur, il y aura effectivement apparemment des agents enrobants qui devraient être intégrés dans une liste d'additifs.
Est-ce qu'il y a une autre question brûlante ? Une là-haut, une seule ? Et je propose qu'après, si d'autres personnes ont des questions, profitent du déjeuner après pour les poser.
Oui, donc Emmanuel Gachet de l'ANSES. Je voulais réagir par rapport à la question de la reconnaissance mutuelle. Quand il était dit qu'il n'y avait pas de procédure, là, quand même, la réglementation nous impose quand même un certain délai d'évaluation du côté de l'agence. Et sinon, ce que l'on essaye de mettre en place, non pas en termes de procédure, mais d'évaluation, c'est de pouvoir s'appuyer sur les critères d'évaluation ou du moins les critères de mise sur le marché dans les autres États membres. Donc systématiquement, lorsque l'on reçoit un dossier de reconnaissance mutuelle, on essaye d'avoir les données des États membres qui ont conduit à cette mise sur le marché. Et c'est tout le problème de cette reconnaissance mutuelle, c'est que d'un État membre à l'autre, nous avons des mises sur le marché, des conditions de mise sur le marché qui sont très diverses. Et lorsqu'à l'agence, nous recevons ces dossiers, nous nous appuyons sur justement nos éléments d'évaluation. Et lorsque nous n'avons pas ces critères qui ont... parce que justement, ces produits dans tel ou tel État membre, les produits ne sont qu'une... n'ont bénéficié que d'un enregistrement technique, nous est difficile de pouvoir justement évaluer selon nos propres critères ces dossiers. Et donc ça donne l'impression qu'il n'y a pas de procédure, qu'il n'y a pas de lisibilité claire de cette procédure de reconnaissance mutuelle, mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'harmonisation sur les règles de mise sur le marché d'un État membre à l'autre.
Merci. Je propose de s'arrêter là. Je vous remercie pour votre exposé. C'est un sujet très important pour notre communauté. Et donc, n'hésitez pas à poursuivre le dialogue.